Radio Kapi.
Les informations, Baben Pongo Massimango.
Alors que des combats se sont intensifiés dans certains coins de Kivu entre rébellions et armées, ils sont plus de 200 éléments à avoir déserté les rangs de l'F-523 pour se rendre volontairement FARDC alliés ces deux derniers mois. La 34e région militaire qui l'annonce appelle les autres jeunes présents dans la rébellion à faire pareil. Lutte contre Ebola, le chef de la MONUSCO réaffirme le soutien des Nations Unies aux autorités congolaises. James Swan l'a déclaré hier à Bunia à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur de l'Ituri. Au centre de leur échange, les besoins des populations affectées et les défis liés à la riposte. Comme invité, Soudia Kisimba, directeur provincial du QPEC, le guichet unique de délivrance est permis de construire dans le Haut-Katanga. Il explique le rôle et l'importance de ces services de l'État créés depuis bientôt 4 ans. Madame, Monsieur, bonjour. Sécurité pour débuter ce journal. Plus de 200 combattants de l'FC-123 se rendent aux forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés dans le Kivu. Cela a eu lieu au mois d'avril et mai dernier. Et ces redditions volontaires se sont effectuées par vagues successives, explique un communiqué publié hier jeudi par le porte-parole de la 34e région en militaire. Le major Dieudonné Kasirika précise que les ex-combattants se sont rendus notamment dans les zones opérationnelles de Lubero, Rutshuru et Masisi au nord Kivu, ainsi que dans celle de Calais au sud Kivu. Dieudonné Kasirika explique ce qu'il en est dans ses propos recueillis par Bernard Danyangi.
Au total, ils sont 204 éléments ex-combattants M23 qui se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo le deux derniers mois, donc le mois d'avril et le mois de mai. Nous avons pris les dispositions nécessaires pour les accueillir. Comme vous le savez, ces jeunes innocents ont été recrutés par force pour être embarqués dans cette rébellion. Et c'est pourquoi nous continuons à demander à tous les autres qui sont en train de souffrir dans cette rébellion de déposer les armes et venir se rendre comme les autres l'ont fait.
Ces redditions interviennent dans un contexte marqué par la poursuite des affrontements entre l'FC-123 et l'armée congolaise appuyée par les combattants Wazalendo. Ces combats se sont intensifiés ces derniers mois dans les territoires de Masisi, Walikale, Rutshuru, Nord Kivu, ainsi qu'à Calais et dans le Sud Kivu. Des femmes de Goma exigent un cessez-le-feu effectif dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la réunion stratégique de haut niveau du comité consultatif pour les femmes, la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, rencontre clôturée hier jeudi à Nairobi au Kenya. Pendant 2 jours, la médiation togolaise ainsi que les facilitateurs du processus de paix conduit par l'Union africaine pour l'est de la RDC et la région ont tablé sur la consolidation de la paix portée par les communautés. Des femmes de Goma ont activement participé à cette rencontre en ligne dans les installations de la MONUSCO. Madame Nathalie Kone-Traoré de la section Jean de la MONUSCO à Goma salue cette participation même à distance. Pour elle, la voix des femmes de l'Est de la RDC ne devrait pas manquer dans ces assises. Elle est ici au micro de Rosalie Zavadi.
En fait, les femmes impliquées dans le processus de paix ici ont été invitées à Nairobi au Kenya. Et donc l'objectif c'était de participer à cette réunion de haut niveau avec les facilitatrices et aussi les chefs d'État honorés qui étaient présents. Malheureusement avec la crise Ebola et les restrictions de frontières qu'on a eues, elles n'ont pas pu se déplacer. Et c'est dans ce cadre-là que le chef de bureau a accepté qu'en respectant les mesures barrières, elles viennent profiter des installations de la MONUSCO et qu'on participe ensemble à cette réunion où il y a eu des interventions à partir de Goma. En fait, lorsqu'on parle de la crise dans la région des Grands Lacs, on parle de la crise au Congo, en RDC. Et donc c'est important que des femmes de RDC puissent contribuer. Des femmes qui sont basées ici à Goma, en Ituri, que ces femmes-là puissent partager leur expérience. Parce que ce sont des femmes qui sont dans les communautés où il n'y a pas encore le cessez-le-feu effectif. Donc il fallait donner la voix des femmes de Goma. Et donc la présence de nos mamans ici, leaders de Goma à cette réunion, a apporté une valeur ajoutée. Pour qu'il y ait des plaidoyers pour essayer de régler cette situation.
D'autres femmes à Kinshasa sont aussi déterminées à jouer un rôle important dans le processus de paix dans l'est du pays. Elles sont parlementaires, leaders de la société civile, ainsi que des partenaires nationaux et internationaux qui réfléchissent depuis hier sur le renforcement du rôle politique des femmes dans le processus de paix. L'objectif est d'identifier des stratégies innovantes et concrètes pour accroître leur influence dans les négociations de paix, la prévention des violences sexuelles liées aux conflits et le suivi des accords de paix. Que retenir d'autre, Nancy Atambo?
Cet atelier réunit plusieurs actrices engagées dans la promotion de la paix pour réfléchir aux moyens de renforcer le leadership féminin dans les espaces de décision. La députée nationale Dominique Munongo explique les innovations politiques pouvant favoriser la participation de femmes aux négociations de paix.
C'est important qu'il y ait en place une synergie des femmes de la société civile, nous les femmes parlementaires, que nous puissions ensemble d'abord nous approprier de tout ce qui se passe, les informations qui sont réellement vérifiables.
Emmanuel Zandi du Fonarev revient sur le mécanisme de protection des survivantes des violences liées au conflit.
Pour les questions de paix, le Fonarev peut être cette passerelle de plaidoyer, une institution gouvernementale qui œuvre justement pour les questions de justice transitionnelle.
Catherine Wittig de la MONUSCO présente des expériences internationales inspirantes pour une participation plus active de femmes au processus de paix en RDC.
Nous, même notre appui, ça c'est la MONUSCO, mais c'est surtout les échanges des députés et de la société civile qui vont compter ce cadre exactement qu'on a essayé de mettre en place.
Les travaux se poursuivent ce vendredi avec l'élaboration des recommandations visant à renforcer l'influence des femmes dans les initiatives de paix et de sécurité en RDC.
Lutte contre Ebola, le chef de la MONUSCO réaffirme le soutien des Nations Unies aux autorités congolaises. James Swan l'a déclaré hier jeudi à Bunia à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur de l'Ituri. Les deux personnalités ont notamment échangé sur les besoins des populations affectées et les défis liés à la riposte dans les zones touchées. Le point avec Isaac Rimo.
Le chef de la MONUSCO indique être venu à Bunia pour exprimer avant tout la solidarité des Nations Unies avec les populations de l'Ituri affectées par l'épidémie d'Ebola. Au cours de son entretien avec les gouverneurs de province, les échanges ont porté notamment sur les besoins des communautés touchées et les moyens de renforcer l'assistance aux populations affectées. Le chef de la MONUSCO a rappelé que la mission onusienne demeure pleinement engagée aux côtés du gouvernement dans les efforts de riposte contre Ebola. James Swan.
La MONUSCO appuie la réponse conduite par le gouvernement dans le cadre de son mandat et de ses capacités. Notre rôle est celui d'un facilitateur opérationnel en appuyant la logistique, la mobilité et l'accès des équipes de riposte.
Pour les gouverneurs de l'Ituri, l'appui de la MONUSCO est déterminant dans plusieurs domaines de la riposte. Il a notamment cité les transports et les déploiements du matériel médical, même dans les zones parfois difficiles d'accès à raison de l'insécurité, notamment à Mungwalu, l'un des principaux foyers de l'épidémie. Le général Johnny Luboya Kachama.
Nous travaillons avec la MONUSCO dans toutes les dimensions. Il y a des tonnes de médicaments qui sont arrivés ici. Ils vont même vers Mungwalu. Il y a aussi le personnel qu'on nous aide à amener à Mungwalu.
James Swan a regagné Kinshasa en fin d'après-midi. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Notez par ailleurs qu'en Ituri, le tribunal de grande instance suspend les audiences foraines à la prison centrale de Bunia et pour cause, vous vous en doutez, est toujours Ebola. Dans un communiqué mercredi, le président de cette instance judiciaire justifie cette mesure par des raisons d'urgence sanitaire avec des cas suspects d'Ebola enregistrés dans cette maison pénitentiaire. Martial Kizabiamungo pour d'autres détails.
Des audiences foraines se déroulent régulièrement à la prison centrale de Bunia dans le cadre du rapprochement de la justice des justiciables. Selon le président du tribunal de grande instance de l'Ituri à Bunia, à cause de l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui frappe actuellement la ville et ses environs, il est impérieux de suspendre jusqu'à nouvel ordre les audiences foraines dans cette maison pénitentiaire afin de limiter le risque des contaminations et des propagations de cette maladie hémorragique. Romain Moulin Kassongo ajoute que les audiences vont reprendre dans ces lieux carcérales après l'amélioration de la situation sanitaire dans la ville et au sein de cette prison. Signalons que depuis l'annonce de l'épidémie d'Ebola, plusieurs actions de riposte ont déjà été entreprises dans la prison centrale de Bunia. Ainsi, des équipements de protection individuelle, du chlore, des dispositifs de lavage de mains et des thermomètres infrarouges ont été fournis à la prison. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Affaire enfant Likulia Mouchobekwa, Noah Tabaza contre Philemon Mambabo en justice. Le verdict est tombé hier jeudi à la cour militaire de Kinshasa, Gombe Andolo. Le haut cadre de l'Agence nationale de renseignement est propriétaire de la résidence où les enfants ont été torturés et acquittés. Les deux policiers accusés d'avoir agressé ces enfants sont eux condamnés à 2 ans de servitude pénale. La députée nationale honoraire et ancienne ministre des droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, ne compte pas interjeter appel. Parlons à présent de ces chiffres qui interpellent. 107 personnes ont été tuées sur plusieurs axes routiers de la province du Haut-Katanga à la suite d'accidents de circulation rien qu'au premier trimestre de cette année. La Commission nationale de prévention routière CNPR Haut-Katanga a publié des statistiques des accidents routiers mercredi. Cette structure dit avoir enregistré plus de 800 cas d'accidents et la première cause est l'excès de vitesse. La CNPR souligne que des efforts sont fournis pour diminuer les cas d'accidents dans la province. Explication pour la Munanga.
Les victimes de ces accidents sont évaluées à plus de 500 personnes et le nombre de dégâts matériels importants enregistrés est de plus de 1000, indique la CNPR. Les causes de ces accidents sont multiples. C'est notamment l'excès de vitesse, l'imprudence au volant, la fausse manœuvre, l'ivresse au volant et les sens interdits. Selon la CNPR, les itinéraires dangereux à Lubumbashi et dans d'autres villes sont notamment la route poids lourd, la route Kipushi, Kasenga, Kasumbalesa, Likasi, la route Kamatanda Kolwezi, le boulevard Msiri et l'avenue Lumumba. Le chargé de la division technique à la CNPR Haut-Katanga explique que certaines actions sont menées sur le terrain pour lutter contre les accidents des routes. Christophe Lia.
Pour résoudre les problèmes des excès de vitesse, nous devons faire aussi les contrôles de vitesse. Quand nous le faisons, les usagers ont tendance à beaucoup crier que c'est de la tracasserie. Des deux, nous procédons maintenant par l'implantation de la signalisation, donc le panneau routier et le marquage au sol. Nous avons déjà commencé. En plus de ça, nous déployons maintenant nos équipes sur le terrain pour aussi réguler la circulation et sensibiliser les usagers de la route sur le respect du code de la route.
Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Direction l'ouest du pays, des centaines de femmes commerçantes du marché Mvadou à Matadi attirent l'attention de l'opinion sur les dangers qu'elles encourent sur la route. Elles affirment vendre leurs produits alimentaires à même le sol au bord de la chaussée à l'entrée de cette ville du Congo central, une situation qui les expose à de risques d'accidents en raison du passage fréquent des camions remorques sur cette voie. Ces femmes ajoutent être contraintes de travailler dans ces conditions faute de place à l'intérieur du marché, raison pour laquelle ces commerçantes demandent aux autorités urbaines de cette ville du Congo central d'aménager un espace adapté afin de leur permettre d'exercer leur activité dans de meilleures conditions et en toute sécurité. Élise Kavira, c'est ce reportage.
La situation devient préoccupante pour ces commerçantes contraintes de travailler dans des conditions jugées dangereuses. Debout derrière ces piments vendus en petits tas de 500 et 1000 francs congolais étalés sur un morceau de sac, Anissette Nzita lance un cri du cœur.
Si l'État nous trouve un espace où les véhicules pourront accéder pour décharger nos marchandises, nous allons quitter la chaussée. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'autre solution. Quand nous voyons des remorques arriver, nous fuyons pour nous mettre à l'abri.
À ce sujet, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, indique qu'un marché avait déjà été aménagé pour ces femmes. Mais faute de suivi, elles retournent toujours le long de la route.
Moi-même, j'avais même signé un partenariat pour la construction d'un marché, mais les mamans pensent que quand vous êtes à l'intérieur du marché, les clients ne viendront pas acheter. Mais vous allez voir, dans les jours qui arrivent, nous allons placer les chaînes pour que les gens ne puissent plus traverser.
Pour le maire de la ville, les services de l'ordre doivent davantage s'impliquer pour assurer le suivi des instructions afin de garantir le respect des mesures prises sur la durée. Matadi, Elis Kavira, Radio Kapi.
Retour à Kinshasa, des jeunes entrepreneurs appelés à travailler avec des moyens de bord avant toute demande de financement de leur projet. C'est ce qui ressort de la conférence organisée par le Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat en partenariat avec l'Office national de l'emploi ONEM hier jeudi dans la capitale. Cette activité se fait une rencontre où les jeunes à vie d'avenir croisent les chemins des opportunités et visent à faciliter leur insertion professionnelle, soutenir le financement des projets innovants.
Entreprendre, c'est résoudre le problème que pose la société. Pour y parvenir, il faut faire le premier pas avec le moyen de bord sans attendre le financement. Arthur Yanga, professeur à l'UNICIC, invite le jeune à cibler le problème de leur milieu afin de bien entreprendre.
Dans l'entrepreneuriat, il s'agit d'identifier dans votre environnement quel est le besoin autour de vous quand vous regardez, quel est le problème qui se pose. Parce que vous devez apporter une solution. Vous devez changer pour être, vous devez apporter le changement. Ça, c'est important. Ne mettez pas l'argent devant. L'argent, ça vient après. Parce que tout un travail que vous devez faire, c'est ce travail qui fait que quand vous aurez un produit, ce produit sera vendable.
Au cours des échanges, un projet attire l'attention. Yves Mbenza propose Yves Business afin d'assainir Kinshasa.
Yves Business Solution, c'est une jeune entreprise dans le secteur de l'environnement pour répondre aux besoins de la communauté à ce qui concerne l'évacuation des ordures dans la ville de Kinshasa.
À noter que la présidente du Salon de l'Emploi, Détina Salamou, appelle le jeune à miser sur l'auto-formation pour renforcer leur compétitivité sur le marché de l'emploi et de l'entrepreneuriat.
Actualité internationale.
Le gouvernement américain a accentué hier sa pression sur Cuba. Il a placé sous sanctions économiques plusieurs personnalités cubaines, dont le président Miguel Díaz-Canel et des membres de la famille Castro. D'après RFI.fr, Washington multiplie ses mesures et ses menaces pour tenter de faire tomber le régime cubain dont le président Trump a promis la chute.
L'invité.
Il s'agit de Souvien Kisimba, directeur provincial de GUSEP, le guichet unique de délivrance des permis de construire dans le Haut-Katanga. Dans cet entretien avec Paula Munanga, il explique le rôle et l'importance de ces services de l'État créés depuis 2022. Pour lui, GUSEP, GUPEC a pour mission de remettre de l'ordre dans l'octroi des permis de construire, un secteur qui était longtemps gangréné par le désordre suivant.
Monsieur Souvien Kisimba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Pourquoi un guichet unique juste pour la délivrance des permis de construire?
Nous sommes un guichet unique de délivrance de permis de construire, GUPEC en sigle. Pourquoi nous sommes un guichet unique? C'est-à-dire toutes les opérations du début à la fin, du dépôt d'un dossier à l'octroi du permis de construire, ça s'est fait à l'interne du GUPEC. Donc le GUPEC ne dépend pas d'un autre service. C'est ainsi que même l'article 47 de l'arrêté portant mesure d'exécution du décret, donc l'arrêté 058, à son article 47, parle de ça.
Comment fonctionne le GUPEC? En d'autres termes, quelles sont les étapes à suivre par une personne pour l'obtention d'un permis de construire?
Nous voulons ici donc informer la population. Auparavant, GUPEC n'existait pas. Mais par des réformes voulues par le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est ainsi que GUPEC a été aussi institué, créé. Et aujourd'hui, lorsque vous voulez construire, c'est venir avec votre dossier au GUPEC. Et cela, c'est l'article 13 de l'arrêté 058. Donc, le dépôt du dossier s'est fait au GUPEC. Et à l'article 20 du même arrêté, on parle de l'instruction du dossier. C'est-à-dire, l'instruction du dossier, le traitement du dossier, s'est fait au GUPEC. Pas ailleurs. Nous avons des techniciens qui vont faire la descente, qui vont faire leur PV, et nous allons faire la taxation. Et même la signature du permis, ça s'est fait au GUPEC. Et le contrôle, l'article 37, même arrêté, l'article 38, vous allez voir que dès qu'on vous donne, on vous octroie le permis, les copies doivent demeurer sur le chantier.
Pourquoi?
Parce que nos agents passeront pour le contrôle de ces permis.
Les permis de construire étaient octroyés depuis longtemps, avant même l'existence du GUPEC. Maintenant, quelle est l'importance de votre service?
Le GUPEC est venu donc combattre tout ce qui était comme antivaleur. Le GUPEC est venu mettre de l'ordre dans l'octroi de permis. Vous allez voir, la plupart de ceux-là qui construisaient n'avaient pas même le permis, parce que même la procédure était difficile pour avoir le permis de construire. Mais aujourd'hui, avec la création de GUPEC, on a facilité les choses. Donc, venez à GUPEC, la République démocratique du Congo, les gouvernements a facilité les choses pour avoir ces permis.
Et maintenant, quel rapport entretenez-vous avec la division provinciale de l'urbanisme, vous en tant que GUPEC?
Le problème, selon les textes, il n'y a rien, mais il n'y a qu'un problème des personnes. La façon d'interpréter le texte, il n'y a que la rébellion, donc le refus d'accepter ce que dit le texte.
Qui refuse?
Il y a la division de l'urbanisme qui refuse la réforme. C'est ainsi que vous allez voir si et là des déclarations à mettre la population à mal.
Actuellement, il y a une certaine confusion qui s'observe sur le terrain dans la délivrance du permis de construire. Des agents de la division de l'urbanisme aussi, nous apprenons qu'ils sont en train de délivrer ces permis-là. Comment est-ce que vous répondez?
Les agents de l'urbanisme qui continuent à octroyer, à traiter les dossiers de permis de construire, se mettent dans le faux. Tous ceux qui sont en train d'octroyer là-bas, ce sont des faux documents. Aujourd'hui, il n'y a que GUPEC qui peut octroyer le permis de construire. Et nous allons faire nos enquêtes.
Il y a certains agents de la division provinciale de l'urbanisme qui accusent GUPEC d'empiéter sur les attributions de ses services de l'État. Quelle est votre réaction?
Nous réceptionnons les dossiers de demande de permis de construire sur GUPEC. Est-ce que c'est empiété sur les attributions de l'urbanisme? Non, parce que l'article 13 de l'arrêté 058 parle que le dépôt du dossier s'est fait au GUPEC. Et puis, je vous ai parlé ici des traitements du dossier, de l'article 20. Nous traitons les dossiers ici. Est-ce que c'est empiété sur les attributions de l'urbanisme? Non. Je vous ai parlé aussi du contrôle. Je vous ai parlé de l'article 37. Et l'article 38, on peut ajouter même d'autres articles. Quand nous contrôlons ce que nous avons signé, est-ce que c'est empiété sur les attributions de l'urbanisme? Nous, nous signons le permis ici. Qui viendra contrôler que ça c'est un vrai permis ou bien ça c'est un faux permis? C'est un autre service. Quand nos agents descendent sur terrain, ce n'est pas pour aller contrôler les attributions de l'urbanisme, non. C'est pour contrôler le permis de construire.
Monsieur le directeur Souvien Kisimba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Souviens Kisimba, directeur provincial du GUPEC, le guichet unique de délivrance des permis de construire dans le Haut-Katanga. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Lielvin Binga, mis en onde par Dudu Ninangasa. Merci de votre attention. Bon, au début de week-end.